Voilà le moment de l'enseignement. J'espère que vous êtes encore là, que vous êtes attentifs. Dieu a ouvert nos cœurs. On a préparé nos cœurs pour recevoir sa parole aussi, en chantant, en priant. Maintenant, on va passer aux Écritures. Quand j'étais ado, on avait un jeu, j'avoue, un peu stupide, mais on rigolait bien. Et vous savez ce qu'on faisait? On habitait dans un quartier où il y avait des platanes. Et donc ça, c'est les fruits du platane. Et il se trouve que on avait découvert que en écrasant les petites boules, si vous écrasez une boule quand elle est sèche, en fait, il y a plein de petits poils. Et on s'amusait à prendre ces petites boules, à les écraser et à les glisser dans le t-shirt de nos amis. C'était très drôle, sauf que ça démange, mais violemment. Au point qu'il y en a qui l'utilisent pour du poil à gratter. Hein, vous savez, dans les boutiques de farce et attrape, on a ce genre de produit. Alors c'est un petit sachet, vous voyez, c'est pas grand-chose. Hein, c'est un petit sachet avec juste la poudre. Et c'est de la poudre de cynorhodon. Donc c'est ces petits poils que vous voyez là. Ils sont très très fins et ça agit comme des petites aiguilles. Et quand ça se met sur la peau, ça nous démange vraiment. Et le platane, c'est gratos, c'est dans la nature. C'était à côté de chez nous, donc on en usait un peu trop au goût de mes copains. Surtout quand ça m'est arrivé à moi. J'avoue que on le mettait pile ici, vous voyez, entre les deux omoplates, le seul endroit où on peut pas se gratter, vous voyez, parce que ça démangeait horriblement, on était obligé de remonter à la maison et de prendre une douche, parce que ça grattait, c'était horrible. Bref, ne faites jamais ça, hein. C'était stupide, c'était dans ma période adolescente. Pourquoi je vous parle du poil à gratter ce matin? Bah déjà le titre du message, hein, vous avez vu le titre du message, le poil à gratter de l'évangile. Et quel est le rapport avec l'évangile? Eh bien moi il me semble que l'évangile c'est un peu comme du poil à gratter. En fait il va s'installer là où on ne l'attendait pas, il est impossible à ignorer et pour certains il est profondément dérangeant. Et donc j'en suis arrivé à cette phrase clé, hein, les étudiants qui sont étudiants en prédication, c'est la PC. Okay, l'évangile est un poil à gratter pour les incrédules, mais une bonne nouvelle pour ceux qui croient. Okay, donc on est parti ce matin pour reprendre notre série sur le livre des Actes, et je sais que vous savez parfaitement que c'est beaucoup mieux qu'une série Netflix, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Je veux pas faire un sondage et vous demander si vous levez la main pour savoir si vous regardez des séries. Et si c'est le cas, est-ce que vous lisez autant la Bible que vous regardez de films? Bon, ça c'est une bombe. Désolé, elle est sortie toute seule. En tout cas, la dernière fois, je suis sûr que vous vous en souvenez où on en était. C'était il y a plus de 8 mois, donc même moi j'avais oublié quel était le dernier. Je savais qu'on était au 49e, mais en relisant mes notes, je me suis aperçu que c'était un de mes passages préférés. Et je pense que c'est probablement aussi le vôtre. Vous savez, c'est le moment où il y a des exorcistes qui passent à Éphèse. C'est des exorcistes ambulants, des juifs. Donc, pas chrétien, hein. Et il voit l'apôtre Paul, donc il voit les conversions autour de lui, impressionnantes chez les Éphésiens, qui baignaient dans l'occultisme, hein. Donc, vous voyez, il y avait probablement des manifestations un peu particulières. Et donc, Paul faisait des prodiges et des miracles, il prêchait l'évangile, les gens étaient transformés, et ces gens, quand ils ont vu l'apôtre Paul faire, ils ont dit « Ah, nous on veut faire la même chose !» Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la formule que Paul utilisait au nom de Jésus et ils pensaient que c'était une formule magique, comme ils faisaient eux avec dans l'ésotérisme. Et donc, ils disent cette phrase, « Je vous adjure par Jésus celui que Paul prêche. » C'est-à-dire que ce Jésus-là, ils ne le connaissaient pas. Ils n'y croyaient pas, mais ils pensaient que c'était magique. Sauf que là, ils sont tombés sur un os. Habituellement, honnêtement, quand on fait ça, on a un plateau en fait, hein, et ça fonctionne, vous voyez, la superstition. Mais là ça n'a pas fonctionné. Les démons se sont rebellés, et regardez ce qui se passe. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns les autres avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. L'humiliation la plus totale. Et oui, tu ne joues pas avec les forces occultes. Ok ? Ça, c'est une bonne leçon pour ces gens et ça devrait l'être pour nous. Déjà, quand tu veux titiller les démons, assure-toi de bien connaître Jésus. Parce que c'est lui qui délivre, hein, c'est pas toi. Avec n'importe quelle formule, tu peux dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort et crucifié à la croix de Golgotha, tu peux rajouter tout ce que tu veux. Hein. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est pas une formule magique. Déjà, c'est un don que Dieu a donné aux apôtres. Pas forcément à nous. Et puis aujourd'hui, il y a eu le Nouveau Testament qui a été écrit. On n'a plus besoin de faire ce travail-là. Parce que le Saint-Esprit est venu depuis. Il embrase le cœur à l'intérieur au moment où l'on croit. Et donc on n'a pas besoin de chasser les démons. Ils vont partir tout seuls. Si on confesse Jésus, si le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur d'un croyant, le Saint-Esprit fait le ménage. Et c'est ce que j'avais raconté dans cette prédication. Alors vous aurez plus de détails, bien évidemment, si vous allez réécouter la prédication. Mais on en est là. Et donc, on est à Éphèse. Donc vous voyez, ville très occulte, la plus occulte du Nouveau Testament, énormément de superstitions, de magie. Et donc voilà que Paul prêche l'évangile, il fait des miracles, et là il y a un véritable réveil. Et comment on sait qu'il y a un réveil ? Eh bien, il y a des signes. Hein, les signes d'un réveil, c'est pas simplement s'écrouler par terre. Ça arrive même chez les païens. Là, il y avait des choses particulières. La première... Un des premiers signes d'un réveil, c'est une prise de conscience profonde du péché et de la sainteté de Dieu. D'ailleurs, les deux vont de pair. Hein. Si on a une conscience du péché, c'est parce qu'on a une grande estime de Dieu. En général, plus l'estime de Dieu est grande, plus la conscience du péché est grande également. Et donc, c'est ce qui s'est passé ici. Waouh ! Ils ont été confrontés à une puissance qui était bien supérieure à celle que eux invoquaient avec leurs démons. Et puis, on observe de manière assez radicale, des changements de comportement. C'est ce qui se passe dans les réveils. Les gens lâchent leurs idoles, et ici, c'est ce qu'on voit à Éphèse. Ils vont brûler tous leurs livres de magie pour une somme de 50 000 pièces d'argent. Ça représente des millions, donc une fortune. Et ils vont laisser ça. Donc, ça, quand ça touche au portefeuille, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. On le voit ici, et donc ils vont abandonner ces idoles. Donc ça, c'est deuxième critère. Donc la première, la conscience du péché et de la sainteté de Dieu. Le deuxième, le changement de comportement. Et surtout, ce qu'on observe aussi dans les réveils, c'est un zèle contagieux. L'Église grandit. La première missionnaire du Nouveau Testament, vous la connaissez parfaitement. Jean chapitre 4, je vous aide. C'était la Samaritaine. La Samaritaine, elle vient d'un milieu, entre guillemets, pseudo-païen, parce qu'il y avait un peu de judaïsme, c'était un mélange. Théologie un peu boiteuse, elle rencontre Jésus, boum, elle fait la rencontre de Jésus, et qu'est-ce qui se passe ? Elle va en parler à tout le monde. Contagion, et de là va naître une église, ou va, en tout cas, une communauté de croyants en Samarie, les ennemis du peuple juif. Et Jésus va venir et il va encore y avoir d'autres disciples qui vont être là. Donc vous voyez, le réveil, c'est une succession de petites choses. Et ces trois éléments sont quasiment toujours présents dans les réveils. Historiquement, c'est depuis la ville d'Éphèse que sont nées les six autres églises de l'Apocalypse. Hein, vous savez qu'il y a il y en a sept dans l'Apocalypse, entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Et il y a en plus l'église de Colosse et d'Hierapolis. Donc vous voyez, Éphèse est devenue assez centrale, parce que de là est parti bon nombre de développement d'églises, d'implantation d'églises, et pas forcément avec des implanteurs qualifiés, mais c'était la contagion, les gens qui étaient touché par l'évangile. Je ne sais pas si vous avez rencontré Ludivine. Ludivine, où es-tu ? Ah, elle est là. Mais Ludivine, c'est le genre de personne qui était à Éphèse. Elle a rencontré Jésus, les idoles sont tombées, et maintenant elle en parle partout. Elle est contagieuse. Quand je la vois, ça me rappelle mes premiers pas dans la foi, en fait. Hein, on parle de Jésus. Je vois les Isidoros qui sont pas très loin. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'avec le temps, ce zèle-là, qui est contagieux, va un petit peu s'abaisser. Hein, je ne sais pas si vous l'avez constaté. Alors il y en a qui vont dire « Oh, c'est la maturité qui arrive ». Oui, la sagesse peut-être, mais parfois c'est pas que ça. Hein. C'est probablement aussi la mondanité qui s'est installée, le manque de confiance absolue dans ce que Jésus fait. Et peut-être des choses qui nous freinent, des douches froides qu'on a pris hein, sur le terrain de l'évangélisation. Ce matin, ça va être vraiment une source d'encouragement, de voir comment Dieu reste souverain malgré des circonstances difficiles, malgré de l'opposition, mais frontale. Et là, vous allez voir que ça va chauffer dur ce matin. Paul, en fait, a été l'outil pour l'implantation d'églises. Il a probablement visité toutes ces églises, mais il a laissé aussi des ouvriers sur place. Il est resté plus de 3 ans. C'est l'église dans laquelle il est resté quasiment le plus longtemps, Éphèse. Il a rayonné pendant 3 ans, on le sait où, Actes 20, 31, il est dit textuellement qu'il est resté 3 ans là. Donc vous voyez, d'habitude, Paul avait la bougeotte. Hein, il arrivait dans une ville, il prêchait l'évangile, il voyait des gens et hop, il changeait de ville. Ah, Éphèse, ville stratégique, la plus grande ville d'Asie mineure et donc la capitale. Et là, il se dit, c'est stratégique. Donc vous voyez, il y avait des pôles comme ça. Et donc il visait plus loin, il visait Rome. Mais regardez ce qu'il dit quand il écrit justement à l'église de Corinthe. Il leur dit « Je resterai néanmoins à Éphèse pendant la Pentecôte, jusqu'à la Pentecôte, pardon, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. » Donc vous voyez, là, voilà, quand j'annonce l'évangile, il y a des choses qui se passent, il y a vraiment un réveil qui a lieu. Mais, regardez la petite phrase, « Et les adversaires sont nombreux. » Quand il y a des choses qui bougent avec l'évangile, les adversaires se réveillent aussi. On va déranger quelqu'un ici parce qu'on va grignoter du terrain à l'ennemi. Et donc, ça va toujours de pair. Quand on annonce l'évangile d'une manière fructueuse, en général, il y a un retour de flamme direct. Et on va voir comment ça se passe ce matin. Mais rassurez-vous, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Si ça vous est arrivé de vous brûler les ailes dans votre témoignage, hein, si vous avez pris un retour de flamme, c'est assez violent parfois, eh bien, sachez que Dieu reste au contrôle. Et qu'il aura de toute façon le dernier mot. Allez, on commence le texte, donc on attaque au verset 21, et on lit la chose suivante. « Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Il disait, après m'y être rendu, « Il me faudra aussi voir Rome. » Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste, et resta lui-même quelque temps encore en Asie. À ce moment-là, survinrent des troubles assez graves au sujet de la voix du Seigneur. En fait, c'est quoi cette voix du Seigneur? Jésus s'était identifié comme étant le chemin, la vérité, la vie. Et donc, les adversaires avaient conscience que ce Jésus-là, il disait qu'il était le chemin. Le chemin et la voix, c'est la même chose, hein. Donc, c'était des chrétiens dont il parlait ici. Alors, mon premier point, et on va le voir, c'est que l'évangile dérange le business des hommes. Dérange le business des hommes. Et on va faire connaissance ici du personnage de cette histoire assez central, c'est Démétrius. C'est pas votre voisin de palier, j'en connais pas, qui s'appelle comme ça, mais ça pourrait. Démétrius, il était orfèvre. Il fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait aux artisans un profit considérable. Donc, une personne clé dans le business. Et donc, cet homme d'affaires, qui était prospère, était probablement le chef de la corporation des orfèvres d'Éphèse. Sa spécialité, c'était de fabriquer des répliques, pardon, comme celle-ci. On n'en a pas trouvé en argent, mais on en a trouvé en plâtre, dans toutes sortes de matériaux. Mais pas en argent, probablement parce que elles ont été récupérées et que l'argent, ça se fond facilement. Vous voyez, une terre cuite, une fois qu'elle est cuite, c'est cuit. Hein, on ne peut plus revenir en arrière. Avec de l'argent, on peut le chauffer et récupérer cet argent pour en faire des pièces ou d'autres objets. C'est probablement pour cette raison qu'on n'a pas de ces statues. Mais il y en avait des milliers dans l'Empire romain qui circulaient, parce que Éphèse était un centre vraiment où se passaient des festivités grandioses, donc païennes, où on venait célébrer Artémis. Artémis, c'était la déesse du temple d'Éphèse. Et donc, ce grand temple qui est, alors attends, j'ai pas de photo ici directement, mais il y avait 127 colonnes. C'est monumental, énorme. 4 fois plus gros que le Panthéon. Donc, vous imaginez la taille de ce bâtiment. Et donc, il y avait un culte qui rayonnait dans tout l'Empire romain, donc dans toute la Grèce, et on venait de très loin. Un peu comme la Pentecôte ou la Pâque avec les Juifs, tous les Juifs aller à Jérusalem en pèlerinage, eh bien, c'était la même chose ici, mais à Éphèse. Donc, une ville où il y avait énormément de tourisme religieux. Et donc, c'était très fructueux pour ceux qui vendaient ces statues. Parce que quand on venait là, et comme il y avait cette superstition, on se rappelait, tiens, j'ai été adoré la déesse Artémis, ou Diane, hein, c'est l'autre nom en romain, mais on allait adorer cette déesse et on en ramenait un souvenir, et puis un petit peu comme les crucifix chez les catholiques, hein, on le met au-dessus de notre lit ou on le met dans une petite niche, la petite Marie, vous voyez, ce genre de petite statuette, et donc il se beurrait sur le dos des gens, et apparemment c'était un business très très lucratif. Mais voilà que Paul arrive à Éphèse, il prêche l'évangile, des gens se convertissent, et ces convertis qui sont touchés par la grâce de Dieu, eh bien, ils veulent plus acheter ces idoles d'argent, et ils en parlent. Mais arrêtez avec vos idoles, c'est pas ça qui va vous sauver, c'est pas ça qui va vous garder, ça c'est fabriqué par des humains. Confiez-vous dans le Créateur de l'univers, confiez-vous en Jésus-Christ. Et ça, c'était le discours des chrétiens, et ça gagnait du terrain. Et donc, quand l'évangile grandit, le business diminue, vous voyez, c'était proportionnel. Comme l'église était en réveil, les gens de manière contagieuse annonçait l'évangile. Donc plus l'évangile grandissait, plus leur business diminuait. Et là, ça devenait inquiétant. Dès qu'on touche au portefeuille de nos amis, ça dérange, voyez. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit ce titre-là, l'évangile dérange le business des hommes. Et donc, comme le chef des orfèvres était inquiet, il va montez au créneau. Et regardez ce qu'on lit au verset 25 et jusqu'au 27. Vous tous, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Vous voyez, c'était carrément une industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une assez grande foule en disant que les dieux faits par la main des hommes ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession, mais encore de réduire à rien le temple de la grande déesse Artémis. Regardons d'un peu plus près ce discours. Ah, excusez-moi, j'ai raté la fin. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce discours? Je reviens ici juste en arrière. Déjà, la première chose, c'est qu'il dit que notre bien-être dépend de cette industrie. Donc, vous voyez, le bien-être est menacé, le bien-être économique. Ensuite, notre réputation professionnelle est compromise. Hein, ça va jeter le discrédit. Et troisièmement, notre déesse est désacralisée. Et donc, si les gens ne viennent plus adorer la déesse, on va plus rien vendre derrière, vous voyez. Mais ça, c'est plus loin. En fait, le cri du cœur, il vient toujours en premier. Quand les gens réagissent, la première parole qui sort, c'est ce qu'il y avait au fond, vraiment. Le reste, c'est des petits éléments, des petits arguments qu'on vient rajouter. Mais vous voyez, c'est quoi le premier argument? Le fric. Le fric, le flouze, le pèse, la thune, l'argent. Eh oui, dès qu'on touche à ce domaine-là, aïe, 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 parce que ça a des implications, le confort, mon rythme, mon style de vie, enfin, vous voyez, et là, on n'est pas prêt à pas revenir en arrière. Comme l'ont fait les Juifs en acte 2, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce qu'on a lu la semaine dernière. En fait, dès qu'on touche au portefeuille, là, on touche un point sensible. En fait, la religion, si vous avez remarqué, elle est invoquée qu'en troisième position. c'est juste pour renforcer la colère de la foule, en fait. Ça, c'est des éléments qu'on vient glisser en plus, mais la première, hé, les amis, on est en train de perdre de l'argent, là, c'est pas sérieux, on va plus pouvoir manger, hein, c'était fort. Donc, il faut qu'on bouge. En fait, c'est un petit peu comme si vous imaginez que vous prêchez l'évangile dans votre village ou votre ville, et que vous êtes un ancien pilier de comptoir, voyez. Et donc, vous êtes le principal client du bar. Et puis, vous vous convertissez, et puis bah, vous arrêtez l'alcool. Et donc, le barman, lui, va être mécontent. Ou, en prenant une autre image, si vous êtes un avocat spécialisé dans le divorce, et que les gens qui viennent vous voir se réconcilient parce qu'ils connaissent Jésus, eh bien, t'as plus de boulot, tu perds ton job. Ou un pharmacien qui vend des anxiolytiques, on rencontre Jésus, mais j'ai plus besoin de ces béquilles-là, vous voyez. Alors, ça ne veut pas dire que les anxiolytiques ne sont pas nécessaires à un moment donné, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quand Jésus transforme, eh bien, il y a des conséquences directes et qui vont impacter même jusqu'à l'économie des gens qui sont autour de nous. Vous savez que dans les réveils, c'est ce qui ressort. Enfin, un des éléments qui ressort, c'est vraiment cet aspect économique. Et je me suis amusé à regarder ce qui s'est passé dans les réveils entre le 17e et le 19e siècle dans l'histoire. Les grands réveils, comme on le dit, protestants. Et lors du réveil de Pays de Galles, par exemple, en 1904, il y avait beaucoup d'ivrognerie. Les gens buvaient énormément et on comptait jusqu'à 700 affaires par semaine à régler, des bagarres, voyez, des différends entre les gens parce qu'ils buvaient et donc ça se frictionnait. 2 ans plus tard, je crois que c'est 1 ou 2 ans plus tard, je sais plus. Donc on est passé de 700 affaires à 2 affaires. Vous imaginez? C'était par semaine, pardon. 700 affaires par semaine, ça en fait quand même, hein. On était passé à 2 affaires au point que les magistrats se voyaient remettre une paire de gants blancs à leur arrivée au tribunal pour leur signifier qu'en fait, ils n'avaient rien à faire aujourd'hui. Ben oui, 2 affaires par semaine contre 700. Avant, ça devait turbiner à fond. Il devait y avoir 30 avocats, 30 juges. Et ben là, ils se tournaient les pouces. En gros, 2 affaires par semaine, c'est tranquille, hein. Et vous voyez, c'est une des conséquences directes de l'évangile. Les tavernes se vidaient, les propriétaires de débits de boissons perdaient leurs clients et donc les bars fermaient les uns après les autres. Ça, c'est une conséquence économique liée à l'évangile. C'est beau, mais pas pour eux. Vous voyez, c'est inquiétant, j'ai perdu mon job. Et donc, quand on n'est pas chrétien, on voit l'évangile d'un mauvais œil. Et quelque part, il y a une logique ici, c'est que s'il y a plus il y aura de chrétiens, moins j'aurai de clients, vous voyez. Quand on a ce genre de business, eh bien, ça nous pend au nez. C'est pour ça qu'avec Sandrine et puis toute une équipe, on avait monté un café, mais sans alcool. Comme ça, on savait que si les gens se convertissaient, ils resteraient clients. Allons plus loin. Pourquoi l'évangile dérange spécifiquement le commerce? Alors, parce que déjà, on rencontre Jésus, il y a le poids de la sainteté, je l'ai dit, et le poids du péché. Donc ces deux éléments, on reconnaît la sainteté de Dieu et du coup, on veut plus tremper dans ces trucs un petit peu louches qui font qu'on n'est plus nous-mêmes, hein, sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue. L'être humain n'est plus vraiment lui-même. Ça, il s'en aperçoit le lendemain, quand la tête, ça frappe dur dedans. Et là, ils regrettent, hein, et tous les ivrognes, comme je l'ai été, se disent « plus jamais je boirai » jusqu'au lendemain. Et en fait, c'est pas ce qui se passe avec l'évangile. Je vous ai rappelé, je vous ai dit la semaine dernière, quand je suis retourné en boîte de nuit, la première chose que j'ai faite, parce que c'était ce qui se faisait habituellement, on reprenait notre verre et on remplissait nos verres de whisky, et puis on chinait comme ça, et puis hop, on enfilait un verre de whisky. Et là, j'ai porté le verre à ma bouche et j'ai dit, mais non. Vous voyez, le changement était à l'intérieur, je ne l'avais pas encore expérimenté, mais non, mais ce n'est pas pour moi ce verre. Vous voyez, il y a un changement qui s'opère et c'est ce que vivaient ici les Éphésiens. Je vous raconte un autre événement qui s'est passé avec Jonathan Edwards. Donc ça, c'est au 18e siècle, 1734 exactement. Et lui, l'un des fruits qu'il voyait dans la manifestation de l'évangile après la conversion, il dit, l'un des effets était de les conduire immédiatement à abandonner leurs pratiques pécheresses. Donc c'est vraiment ça. L'autre consistait à les pousser à rechercher sérieusement les moyens de grâce. Ils se mettaient à lire alors qu'ils ne lisaient jamais. Honnêtement, avant d'être chrétien, j'avais jamais lu un livre entier. Je lisais, je feuilletais Paris Match chez le dentiste, ou alors, à la limite, les bandes dessinées, Lucky Luke, Astérix et Obélix, ça n'allait pas plus loin. Si, les magazines de foot, forcément. Dès qu'il y avait un journal sportif, je regardais les résultats. Mais ça n'allait pas au-delà, je lisais même pas les articles. Eh bien là, c'était un des fruits, ici, la lecture, la prière. Alors ça c'est une nouveauté pour un païen qui se convertit. Prier Dieu, c'était pas très naturel, mais c'est ce qui, ça les poussait à prier. La méditation et la participation au rassemblement de l'Église. Je me souviens que la première fois, j'étais pas vraiment croyant encore. J'étais sur le chemin quand je suis arrivé dans une église évangélique. Et là, je les ai regardés, j'ai écouté les chants, j'ai dit, waouh, jamais de ma vie je chanterai ça. Jamais. C'était tellement décalé par rapport à ce que moi j'écoutais. Et puis, quelques semaines plus tard, Dieu a transformé mon cœur. Et moi aussi, je chantais avec tout le monde, avec des cris de joie. Mais... J'arrête. Mais voyez cette démonstration. C'est tout ce qui va se passer, toutes les métamorphoses qui se passent dans la vie d'un croyant. Et ça, c'est un vrai réveil. Quand l'évangile s'installe vraiment dans un cœur, le commerce du péché perd un client. Et donc, ça fait réagir. C'est dérangeant. En tout cas, pour Démétrius et pour ses collègues, ça l'était profondément. Et donc, ils vont tout faire pour arrêter cet engrenage quelque part. Et donc, on le voit au verset 28, à ces paroles remplies de fureur, oui, il avait excité tout le monde, ils se mirent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Eh bien oui, ils savaient que c'était Jésus qui provoquait ces changements, et eux, ils se sont dit « Non, non, nous, on a Artémis avec nous !» Et donc, ils ont clamé Artémis. Mais ça s'arrête pas là. Là, c'est juste le démarrage du feu, parce que ça va aller plus loin. Et ça, c'est le deuxième point. C'est qu'on a dérangé ici le portefeuille et les hommes. Là, on va aller plus loin encore. On va déranger l'ennemi qu'on ne voit pas, mais qui est bien présent. Et vous allez voir, ça va tourner au vinaigre. Et c'est ce qu'on lit au verset 29. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent d'un commun accord au théâtre et entraînèrent avec eux les Macédoniens Gaius et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. Alors, vous avez vu ici, il parle d'un théâtre. Un théâtre, c'est pas un petit truc de campagne comme cette salle, hein. Le théâtre d'Éphèse était particulièrement grand. Il pouvait accueillir jusqu'à 25 000, entre 24 et 25 000 personnes. Je vous ai mis ici la photo du stade de la Servette, de Genève, là où on était. Vous savez, quand on était au Ramada, on voyait ce stade. Bah tiens, depuis cet angle en plus, là, on voyait exactement ce stade. Il peut contenir jusqu'à 30 000 personnes. Donc, vous voyez, c'était l'équivalent ici à Éphèse d'un stade. Donc c'est énorme. Donc ils ont réussi à faire venir toute la foule dans ce théâtre. Et vous avez vu comme il est fait. Quand vous jetez une petite pièce de 20 centimes au milieu là, vous voyez là, juste à cet endroit-là, on l'entend ici, jusqu'en haut, comme si vous étiez à côté. Bon, j'ai fait l'essai parce qu'il y a un théâtre comme ça à Lyon. Allez le visiter, théâtre gallo-romain à Fourvière. Eh bien, c'est impressionnant. Et on fait toujours d'ailleurs des spectacles de théâtre où même il y a des stars qui viennent chanter ici l'été. Et en fait, c'est incroyable cette acoustique. C'était étudié pour que tout le monde puisse entendre. Et donc le son remontait. Il y a un angle particulier. En fait, c'est des vrais ingénieurs qui ont conçu ces théâtres-là. Et donc, c'était le lieu public dans l'Antiquité où se tenaient des assemblées populaires. Et donc la foule va remplir tout ce stade, on ne sait pas si c'était plein, mais en tout cas il y avait de l'espace. Et probablement beaucoup, beaucoup de gens, parce que ça fait un tumulte et même une émeute, le terme est utilisé. Et c'est ce qu'on lit au verset 30 et 31. « Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples en empêchèrent. Même quelques-uns des hasards qui étaient ses amis lui envoyèrent des messagers pour l'exhorter à ne pas se rendre au théâtre. » En fait, on va s'arrêter juste un instant ici. Paul veut aller au milieu de la foule qui est en furie. Ses disciples l'en empêchent. Même les hauts fonctionnaires de la ville, les asiarques, c'était des gens qui étaient connus, en fait, hein, des sortes de ministres, mais qui étaient des amis de Paul, donc qui s'étaient probablement convertis. Eh bien, ils vont lui déconseiller fortement d'y aller. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler un signe de sagesse collective. Parce que Paul, il y serait allé. Il avait le courage de le faire, mais c'était pas sage. Parce que là, il allait mourir, hein. C'est clair que il était monté au créneau à ce moment-là, c'était la fight assurée et probablement qu'il aurait terminé au pilori. Alors, on poursuit le texte et c'est là où on va arriver à quelque chose. Vous voyez, ça monte, la mayonnaise, elle monte. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Et là, on voit vraiment le mouvement de foule. Hein, quand vous voyez un attroupement, vous voyez des gens, qu'est-ce que vous faites? Vous vous approchez, vous savez même pas ce qui se passe. Et puis il y a d'autres gens qui vous voient approcher, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose. Et puis le petit groupe commence à grossir. Et puis tout le monde se regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, vous? Puis il y en a un qui glisse une info, puis un autre une autre. Ah bon, t'es sûr? Et, bref, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Et donc, eux, ils se retrouvent là, embarqués avec tout le monde. Et il y a le mouvement de foule, donc on est là. Vous voyez, ça c'est le danger d'une foule. Et donc, ils savaient même pas pourquoi ils étaient là. Et c'est là où ça va partir en sucette. Acte 19:33. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main et voulait se défendre devant le peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de 2 heures. Grande est l'Artémis des Éphésiens. Grande est l'Artémis des Éphésiens. Grande est l'Artémis des Éphésiens. Grande est la... Attention, hein, je suis pas en train de... Je mime ici ce qui s'est passé. Alors, 2 heures, hein, il me faudra au moins 3 litres d'eau. Parce que je l'ai dit 4 fois et j'ai déjà mal à la gorge. Vous voulez faire l'exercice? On va pas le faire, hein. Mais, grande est l'Artémis pendant 2 heures, les amis. Vous imaginez ce que ça peut être? Vous avez déjà été à la... Dans un stade de foot, hein, ça dure pas 2 heures quand il y a des moments de pause. Et là, ça a duré 2 heures. Vous voyez la folie qui s'est installée dans la foule. Et on voit ici des juifs qui vont être mis en avant. Et on se dit, mais qu'est-ce que ces juifs faisaient au milieu des païens? Ah, il y avait un petit intérêt là. C'est opportuniste cette situation, hein. C'est un petit peu comme cet adage qui dit « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Vous voyez, c'était des ennemis des Juifs, les chrétiens, parce qu'ils leur volaient des clients, quelque part. Les synagogues se vidaient au profit des églises. Et donc, ils se sont dit « tiens, on va s'associer avec eux, comme ça on va chasser les chrétiens ». Sauf que ça a dû leur piquer les oreilles, hein, parce que dites à un Juif... Cette phrase-là, « Grande est l'Artémis des Éphésiens », quand les Juifs, eux, croyaient en un seul Dieu. Donc, ça restait des païens. Mais pendant 2 heures, entendre cette phrase-là, et je peux vous dire que ça a dû piquer leurs oreilles, elles devaient saigner à la fin de ces 2 heures. En tout cas, c'est ce qui se passe ici. Et donc, en fait, n'y voyons pas simplement quelque chose d'humain, mais quelque chose qui est attisé par l'ennemi. D'ailleurs, une des phrases qui va revenir, il y a une dimension spirituelle ici qui est évidente, c'est ce que Paul dit aux Éphésiens. Et vous voyez qu'il envoie ce courrier aux Éphésiens. Donc c'est vraiment des choses qu'ils ont vécues. Ils ont vécu et regardez ce qu'il leur dit. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc contre les hommes qui sont en face de nous, contre cette foule, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les yeux célestes qui manipulent, en fait, les émotions, qui manipulent les foules. Et c'est, en fait, diabolique, tout ça. Donc, nous, on voit des réactions humaines, et ça vous est probablement déjà arrivé. Vous êtes dans une conversation, vous commencez à parler de l'évangile, pas un mot au-dessus de l'autre, vous êtes nickel, et puis tout d'un coup, une réaction violente en face de vous. Si ça vous est jamais arrivé, ça vous arrivera un jour. Eh bien, dites-vous que c'est pas la personne en face de vous, mais qu'elle est instigée quelque part, soufflée, aiguillonnée par le diable, et elle réagit. Alors qu'il n'y a aucune raison, vous voyez ? Ce n'est pas humain, quelque part. Et c'est ce qui se passe ici. Il y a quelque chose de plus fort que même la nature humaine. C'est qu'elle est, elle est invitée à aller plus loin et à aller dans les excès, quelque part. Et ça, c'est diabolique. En fait, pourquoi ça marche comme ça ? Bah parce que le diable perd du terrain. Il perd du terrain. En fait, on est en train de lui arracher l'évangile. Les croyants sont en train d'être arrachés à son royaume, parce qu'ils sont transportés dans un autre royaume, le royaume de la lumière. Ils étaient dans les ténèbres, ils basculent dans le royaume de la lumière. Et donc tout ça, ça fait réagir le diable et nos ennemis. Nos ennemis invisibles. Hein. Et donc ça va se traduire par des actes très concrets. Dans les réveils, c'est ce qu'on observe. C'est qu'il y a vraiment des gens qui se convertissent, la société change, mais il y a aussi, comme on l'a vu au début avec Paul, il y a une pression qui va arriver et il va y avoir des choses qui se passent. Les méthodistes de Wesley, par exemple, il y en a qui ont été lapidés. Hein ? Donc, lapidés, c'est assez douloureux, les amis, quand vous témoignez de l'évangile. Il y en a qui ont été jetés dans des fontaines, ils étaient noyés. Il y en a d'autres qui ont été attaqués pendant des réunions en plein air. Donc vous imaginez, en plein culte, ça arrive aujourd'hui. Hein. Lisez simplement l'actualité de Portes Ouvertes et vous allez voir que ça chauffe très très dur. Il y a des dizaines de chrétiens qui meurent dans des assemblées. Ils viennent au culte et puis il y a quelqu'un qui vient et boum, il tue 20 personnes, 30 personnes. Des fois, il brûle l'église. Donc c'est une réalité. On dérange l'ennemi. Alors nous, on le voit comment ? Au travers des humains, mais derrière, l'ennemi est bien présent. Et en fait, c'était prévu. Jean chapitre 15, Jésus l'avait prévenu, ses apôtres. D'ailleurs, il s'inquiète pas de ces choses-là. Si vous regardez, il n'y a pas d'inquiétude chez les chrétiens. Simplement un constat. Luc dit, voilà ce qui se passe. Il n'est pas inquiet pour l'évangile. Jésus avait dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde va vous haïr. Et oui, et ça c'est une réalité que vous avez peut-être pas encore vécue, mais probablement que vous le vivrez un jour. J'aime cette phrase de Tim Keller parce que ça va amener une petite nuance. Si tu n'es jamais persécuté, c'est probablement que tu n'es pas en mission. Mais si tu es toujours persécuté, c'est probablement que tu manques de sagesse. C'est très vrai. C'est très vrai. Si vous n'êtes jamais persécuté, alors là, il faut se poser des questions. C'est que vous n'annoncez pas l'évangile. Probablement. Par contre, si tu l'es tout le temps, c'est que tu manques peut-être de sagesse. Amener un petit peu de saveur dans tes propos, un peu de sel, serait peut-être une bonne chose. Ça m'amène à mon troisième point, et c'est justement quelque chose d'inattendu. C'est que l'évangile dérange, mais Dieu a le dernier mot. Et c'est les versets 35 à 40. Verset 35, « Cependant, le secrétaire calma la foule et dit, « Éphésiens, quel est l'homme qui ne sait pas que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel ?» Probablement un météorite qui était tombé, ça arrive, et donc là on pensait que c'était un dieu, vous voyez, et donc il y avait quelque chose qui s'était passé forcément ici, ils en ont fait une idole, un dieu, et donc le secrétaire de la ville, eh bien c'est aussi un haut fonctionnaire civil, probablement l'équivalent du maire dans un village ou dans une ville, donc vous voyez un haut poste quand même, et donc son intervention là est providentielle. C'est Dieu qui a choisi cet homme. Et en fait, Dieu choisit qui il veut. Il peut choisir un chrétien pour protéger l'évangile. Mais il peut aussi, et c'est le cas dans ce domaine-là, et pas que, mais ici, on voit qu'il va utiliser cet homme pour protéger les chrétiens et permettre à l'évangile de continuer d'être annoncé. Son discours est assez incroyable quand on regarde de près. En fait, il commence par les caresser un petit peu dans le sens du poil. Hein, il leur dit pas c'est mauvais, il leur dit mais Éphèse est célèbre dans le monde entier, tout le monde sait qui vous êtes. Votre grandeur est incontestable. Alors pourquoi vous paniquez, vous voyez ? Il les rassure quelque part. Et ça c'est brillant parce que en fait il va immédiatement attirer l'attention. Vous voyez ? Si vous venez dans un discours politiquement. On commence jamais en rentrant dans l'art du public parce que déjà tu l'as perdu à la troisième seconde. Donc tu le prends avec toi et puis là c'est vraiment une rhétorique qui maîtrisait vraiment. Au verset 36, on lit puisque cela est incontestable, vous devez vous tenir calme et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont ni sacrilèges ni blasphémateurs envers notre déesse. Vous voyez? Là, il prend la défense des chrétiens. Et là, on se dit, waouh, mais d'où ça sort? Ben, Dieu est souverain. Et il peut agir sur le cœur d'un non-chrétien pour ici protéger son peuple. C'est exactement ce qu'il fait. Vous n'avez rien à craindre. Mais en fait, c'est pas des blasphémateurs. Et vous voyez, il va orienter la discussion et il va revenir à sa politique parce que ça, il maîtrisait. En fait, si vous vous souvenez dans l'histoire, quand on lit l'écriture, pensez à Joseph qui a été vendu par ses frères. Ce qu'il a voulu pour le mal, Dieu l'a retourné pour le bien. Pensez à Esther et à Assuérus. Vous voyez, c'était un non-chrétien, Assuérus. Pensez à Daniel et à Nebuchadnezzar qui l'a protégé. On voit que Dieu peut utiliser qui il veut, en fait. C'est cette phrase que j'avais mise ici. Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir ses desseins, même des incroyants. Et donc, il faut toujours se souvenir de ça. Parce que le secrétaire d'Éphèse ici, eh bien, il va s'inscrire dans cette longue lignée des païens qui vont prendre la défense du peuple de Dieu. Et regardez, le dernier argument, c'est l'argument juridique. Si donc Démétrius et les artisans qui sont avec lui ont un grief contre quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans l'assemblée. Donc vous voyez, il utilise des moyens légaux en disant, mais écoutez, là ce que vous êtes en train de faire, c'est pas très légal. Donc il y a des moyens légaux, utilisez-les. Là ce que vous faites, ça n'a pas de sens. Et regardez ce qu'il dit, c'est la dernière phrase de notre chapitre, nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de rendre compte de cet attroupement. Donc la sédition, c'est une sorte de révolte, hein, un soulèvement contre l'autorité. Donc ici, il craignait de perdre quelque part tous les avantages, parce que Rome avait installé un système qui s'appelait la Pax Romana. La Pax Romana, c'est qu'on voulait qu'il y ait la paix, quitte à l'imposer, mais on voulait qu'il y ait la paix au niveau de l'Empire romain. Et ça, c'était la force de Rome. Mais s'il y avait des gens qui commençaient à faire du tumulte, eh bien, ils étaient brimés, mais directement. Et donc, pour que ce soit pas le cas, il leur a dit, mais écoutez, là, ce que vous êtes en train de faire, ça peut être vu par l'État comme un acte de sédition, de rébellion. Donc, arrêtez tout. Utilisez les moyens légaux, les amis. Et Dieu utilise cet homme-là, sage, pour protéger les chrétiens. Et c'est ce qui va se passer, la menace va disparaître, l'apôtre Paul va pouvoir continuer à annoncer l'évangile et les églises vont s'implanter et grandir. On s'arrête ici pour le texte, mais on va tirer trois applications. La première, c'est qu'on ne doit pas être, et je te tutoie ici parce que c'est l'application, hein, ne sois pas surpris quand l'évangile dérange. Si tu annonces l'évangile sur ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton voisinage, et que ça provoque de la gêne, de l'hostilité ou de l'opposition, ne sois pas surpris. Mes voisins d'en face, quand je leur ai parlé de l'évangile il y a un an, m'ont regardé parce qu'ils m'ont posé la question sur mon métier. Alors forcément, j'ai parlé de l'évangile. Pourquoi j'étais pasteur ? Et puis bah maintenant, ils traversent la route, enfin pour aller sur le trottoir d'en face quand j'arrive. C'est pas terrible. Et pourtant, j'ai rien fait. Simplement, j'aurais présenté l'évangile, mais ils ont pas trop envie d'en entendre plus, vous voyez. On doit pas être surpris de ces choses. Ça m'attriste, hein. Je veux pas sauter au plafond pour ça. Mon autre voisin qui habite juste à côté, lui, il se réjouit. Donc vous voyez, les réactions sont différentes selon les uns et les autres, selon l'ouverture du cœur, on ne sait pas. Mais ça peut se fermer aussi radicalement. Hein. On peut avoir une belle ouverture, discuter, inviter nos amis à l'apéro, regarder un match de foot, hein, ça faites-le, honnêtement. Utilisez les moyens que les gens utilisent. Mais à un moment donné, il peut aussi y avoir une opposition frontale qui a lieu, et il ne faut pas s'en inquiéter parce que c'est normal. Le danger pour nous, c'est d'utiliser des moyens ou de diluer l'évangile, parce que quand on prêche l'évangile, il se passe ce genre de réaction, alors on serait tenté soit de rien dire, soit de diluer l'évangile, hein, pour que ça soit moins radical. Et ça, c'est un des plus grands dangers qui nous guettent. Et donc, je pense qu'il faut veiller à ça. Donc, ne soyez pas surpris. C'est normal quand ça pique. Continue à annoncer l'évangile malgré l'opposition. Vous avez vu que Paul, il s'est pas arrêté. Hein, il était prêt à aller monter au créneau. Il a eu du courage, Paul. Il était prêt à affronter une foule énorme qui était en furie. Eh bien, ses amis disent, non, c'est pas le moment, calme-toi, reste de côté. Et Paul, est-ce qu'il s'est arrêté en se disant, oula, ça va chauffer, la prochaine fois je vais annoncer l'évangile? Il a continué, il s'est pas arrêté. Et Paul, il avait été battu, il a été laissé pour mort à plusieurs reprises, hein, dans son premier voyage. Il s'est passé des choses dures, ça l'a absolument pas vacciné. Mais au contraire, ça l'a encouragé à continuer. Et je pense que c'est un bon signe quelque part quand il y a quelque part une opposition. Parce que si il y a une opposition, ça veut dire que ça dérange, ça veut dire que l'évangile est prêché. C'est presque bon signe quand ça bouge en face et quand ça dérange. Le pire, finalement, ce serait l'indifférence. L'indifférence, c'est « Ah, c'est super ce que tu vis, Franck. Franchement, c'est bien pour toi. » Ça, je l'ai entendu tellement de fois. Hein, vous l'avez entendu aussi. « Ah, je suis content pour toi. C'est merveilleux. » Je viens juste de t'annoncer que tu vas aller en enfer si tu crois pas. Hein. Mais c'est merveilleux pour toi. Vous voyez, c'est que là, il y a le diable qui vient et il met un voile vraiment devant les yeux. Je vous rappelle cette phrase, hein. Si tu n'es jamais persécuté, c'est probablement que tu n'es pas en mission. Si tu es toujours persécuté, c'est probablement que tu manques de sagesse. Donc il faut garder cet équilibre. D'accord? Essayons de garder cet équilibre. Si vraiment on est tout le temps persécuté, c'est qu'on va trop loin. Ou que là, on le dérange, mais d'une manière humaine, vous voyez, qui est charnelle. Donc, essayons d'être équilibrés aussi dans ce domaine-là. Et le dernier point, fais confiance à la souveraineté de Dieu. Je pense que là, on a un cas, mais énorme, qui nous rassure. Dieu reste au contrôle. Dieu, il a toujours le dernier mot, quoi qu'il en soit. Même si c'est une profonde injustice, et vous en avez vécu, des accusations fausses qui peuvent même vous conduire parfois devant un tribunal. Ça arrive. J'ai des amis chrétiens qui se sont retrouvés au tribunal alors qu'ils n'avaient rien fait. Et en fait, c'est ce texte que vous connaissez bien, Romains 8, 28, qui nous rassure. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors ce verset ne dit pas que tout ce qui arrive est bon, hein. Tout ce qui nous arrive n'est pas bon. Non. Mais il dit que Dieu fait concourir toutes choses, y compris les émeutes, y compris les oppositions, y compris les injustices qu'on va subir. Et ça, c'est pour ceux qui l'aiment, pour les croyants, donc pour vous et pour moi. Mais vous avez vu que l'émeute d'Éphèse, pardon, elle n'a pas arrêté l'évangile. Elle a encore rendu plus visible, et là, à toute la ville. Les deux hommes ont été libérés, si vous vous souvenez. Et en fait, l'évangile est présent. Paul, il nous demande une chose. Dans 1 Corinthiens 3, verset 7, je vous lis le texte ici, il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé. » Ok, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est quelque chose, mais Dieu qui fait croître. Ça, c'est l'évangile tel qu'il est. C'est un poil à gratter pour l'ennemi, mais une puissance de salut pour quiconque croit. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on continue de semer, qu'on continue de planter, qu'on continue d'arroser, qu'on reste quelque part dans la ligne qu'il nous a demandée, dans notre mission, dans notre vocation de disciple. Et lui faire confiance. C'est lui qui fait croître l'évangile. Et là, on ne doit pas utiliser des moyens pour essayer de faire grandir le royaume de Dieu. Simplement être fidèle, continuer de prêcher, continuer de prier, continuer d'être fidèle dans notre comportement aussi, d'être des modèles dans la société, s'investir dans la société comme on peut avec le temps qui nous reste. Je m'arrête ici et je vous pose une question. Si tu es chrétien, est-ce que l'évangile que tu portes dérange ? Parfois, régulièrement ou jamais ? En fonction de ces trois mots-là, tu vas savoir si tu es dans le juste ou dans le faux. Le trop, c'est pas bon. Le pas du tout, c'est pas bon non plus. Faut essayer d'être au milieu. D'accord ? Donc je t'encourage à réfléchir. Si tu manques de sagesse, à demander à Dieu, il va te la donner. Demande de la sagesse, je sais pas quoi dire, franchement. Je me suis retrouvé dans des conversations, j'écoutais les gens, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire ? Des fois, il vaut mieux se taire, on dit rien, on ferme sa bouche. Mais parfois, il faut l'ouvrir et Seigneur, vas-y, dis, je vais sortir le premier mot, dis les prochains parce que je sais pas quoi dire. Et le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Et si tu connais pas encore Jésus, alors ça doit t'intriguer quand même. Pourquoi on est capable, même comme Paul, d'aller au front, même si on sait qu'on va se ramasser, même si on sait que ça va être dur. Pourquoi on est capable d'aller jusqu'au martyr ? La plupart des disciples sont morts martyrs. Pourquoi ? Parce que Dieu a transformé notre vie, notre cœur. Et donc, si tu vois ce comportement autour de toi, si tu connais pas encore Jésus, mais pose-toi la question, d'où ça vient ? Et tous le vivent. Tous ici, alors avec une intensité peut-être différente, avec des dons différents, mais on le vit tous d'une manière ou d'une autre. On est différent parce qu'on connaît Jésus et qu'il a changé notre vie, il a transformé notre cœur. Alors, voilà, si jamais tu voulais être comme ces chrétiens, ben moi je t'invite, viens discuter avec nous à la fin du culte. Viens discuter avec nous, on t'expliquera cet évangile. Simplement, ce message qui transforme les cœurs. Un homme parfait qui était Dieu, enfin c'est pas un homme, c'est Dieu qui vient sur cette terre, se fait homme, vient souffrir au milieu des hommes, il vient explicitement porter le péché des hommes. Il vient le porter sur une croix où il va prendre la colère de Dieu, il va payer la dette de notre péché. Et grâce à sa mort sur la croix, il va nous offrir un pardon gratuit. Et ensuite, il remonte au ciel. De là, il va envoyer son esprit et qui vient à l'intérieur de notre cœur, qui change notre vie. Et c'est ce qui permet ce changement radical. Voilà le message de l'évangile. Eh bien, je t'invite et je vous invite à prier avec moi et puis on va s'arrêter ici. Père éternel, on est reconnaissant pour cette parole. Merci parce que on te voit à l'œuvre avec puissance dans le livre des Actes. Bien sûr, aujourd'hui encore, mais Seigneur, tu as transformé ces Éphésiens au point qu'ils ne pouvaient se taire et que l'évangile s'est répandu dans plein de villes autour d'Éphèse. Seigneur, j'aimerais que ce soit le cas ici à Genève, que nous soyons un peu cette Éphèse et que, eh bien, ce soit contagieux, que notre zèle pour toi, notre conscience du péché, de ta sainteté et un changement radical dans notre comportement, ces trois éléments soient présents dans ton Église. Seigneur, on veut pas faire un réveil artificiel. On veut que ce soit réel. Seigneur, on veut que ce soit toi qui touches les cœurs et qui fasse grandir ton Église. Donc, je te prie pour ça. Je te prie pour que l'EIG, elle rayonne, oui, de manière mondiale avec Internet, mais on veut la faire rayonner aussi, cette Église, ici, autour, avec nos voisins, là où on habite, Seigneur. Utilise-nous, n'importe où, dans notre travail, dans nos loisirs. Utilise-nous pour ta gloire, Seigneur. Et je te prie tout cela au nom de Jésus. Amen.